Il est 11h sur la nouvelle génération. Ravi de vous retrouver alors dans ce troisième numéro du Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Michel Tomega assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Club de la Presse, c'est avec nos plateformes numériques en ligne, bien évidemment, et grâce auxquelles nous émettons vers le monde entier. Et si vous nous recevez, alors dans les lacs, c'est grâce à Radio Lumière. À Nero, vous pouvez également nous suivre à Takpamé, grâce à la radio La Paix, et à Sokodé, sur Central FM à Bassa, sur Radio Daoul à Niamtsougou, sur Sama FM, et au grand nord du pays à Dapaon, grâce à Radio Courtoisie. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est l'analyse, le décryptage et le commentaire de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et justement, c'est avec alors nos confrères journalistes en studio avec moi. Et comme vous le savez, déjà quand on parle alors de mercredi, ça rime bien avec santé et éducation. Bonjour Gadiel.
Pascal, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM.
J'espère que santé et éducation se portent bien.
Tout va bien.
Dieu merci. Alors, l'autre journal aussi qui sort chaque mercredi, toujours dans les kiosques, c'est le Mania Libéré. Mania Libéré d'Abbas Issaka. Abbas, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et autrices de Canal FM qui sont en train de suivre ce moment.
Le Mania Libéré, ça se porte bien?
Oh, on rend grâce.
D'accord. Rendons toujours grâce à l'opportun, c'est important. Alors, je l'annonçais, parlant alors de santé, puisque nous ouvrons surtout alors l'émission Club de la Presse chaque mercredi avec des sujets de santé. Et aujourd'hui, avec santé, éducation en kiosque, aujourd'hui, c'est... vous titrez à la une, Gadiel, vous titrez à la une alors de votre journal de ce matin, « Tomates, éviter AVC et infarctus ». Alors, vous nous proposez une recette et vous dites que la tomate que nous connaissons pourra nous aider à éviter l'AVC.
Oui, la tomate, c'est ce légume que nous connaissons bien. C'est un légume qui est bien consommé un peu partout, Togo, en Afrique, dans le monde. D'après les statistiques, c'est l'un des légumes les plus consommés dans le monde, les plus connus dans le monde. La tomate se trouve un peu partout sur la terre et les êtres humains connaissent bien la tomate. Plusieurs études sont faites sur ce légume-là et nous ressentons comme ça une étude qui nous a beaucoup intéressé sur les bienfaits de la tomate sur le cœur et tout le système cardiovasculaire. Vous savez, les AVC, l'infarctus, c'est des choses qui surviennent dans l'organisme lorsqu'il y a obstruction d'une artère, que ce soit vers le cœur, que ce soit dans le cerveau. Alors, quand il y a obstruction au niveau des artères, pas un caillot de sang, ni le sang, ni l'oxygène ne circule plus. Donc, ce qui fait qu'il y a un problème, un accident, que ce soit au niveau du cœur, que ce soit au niveau du cerveau. Et les études qui sont sorties tout dernièrement sur la tomate, notamment par rapport à ses propriétés de vertu, c'est que ceux qui consomment très souvent les purées de tomates ont plus de vertu, bien sont plus protégés par rapport à la formation des caillots dans le sang. Et nous, ça nous a intéressé. Après plusieurs recherches, on a vu que cela est avéré, donc ceux qui sont des hypertendus, des diabétiques, des cardiaques, ceux qui ont une fois fait un infarctus ou bien un AVC qui ont été récupérés, qui sont en rééducation actuellement, ceux qui sont en surpoids, ceux qui sont obèses, donc vous voyez tout ce que je viens de citer, pratiquement nous sommes dedans. Nous devons consommer,
personne n'est épanoui.
Voilà, personne n'est épanoui, nous devons consommer de la tomate et les études disent que c'est sous forme de purée, sous forme de sauce. Et c'est sûr que nous avons fait une recette dans cet article, comment consommer la tomate pour éviter les AVC ou bien l'infarctus. S'il vous plaît, on a parlé de tomates naturelles. On n'a pas parlé de boîtes de tomates. Donc, ceux qui nous écoutent, il faut faire la distinction. On a parlé de tomates naturelles. La recette, on se sert de la tomate naturelle. Qui sort du sol, qu'on cueille sur l'arbre. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Mmh. Pas aller au marché et pour acheter une boîte de tomates, bien des boîtes de tomates pour faire la recette, non. Cette précision, nous portons vraiment à l'affaire.
Et vraiment, c'est une précision très importante, parce que même d'ailleurs, à la une, à l'heure du journal, on voit si bien avec les photos d'illustration, on voit que c'est la tomate naturelle, ce que nos mamans utilisent souvent, nos bonnes dames Absolument. Utilisent souvent, alors pour la cuisine. Alors, au-delà également de tomates, vous parlez alors d'acide gras oméga 3 qui peut réduire aussi le risque d'AVC.
Les acides gras oméga 3, c'est des nutriments qui se trouvent dans plusieurs aliments, hein, et qui font du bien au système cardiovasculaire. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de réduire la consommation de la viande rouge, par exemple, et de préférer la consommation du poisson ou bien voilà, de la viande blanche, c'est pour cause. C'est que si on prend le poisson, par exemple, c'est un aliment qui regorge de ce nutriment. Un nutriment qui joue un rôle assez protecteur sur le système cardiovasculaire, sur le cœur, sur les vaisseaux sanguins. Donc, voilà, on a cité un certain nombre d'aliments qui composent ce nutriment-là et que nous devons consommer. C'est des aliments qui sont autour de nous, qui sont au marché, qu'on a même à la maison. Mais souvent, on néglige de consommer, on couvre les aliments transformés. Attention à la consommation des aliments transformés à outrance. C'est très mauvais pour la santé cardiovasculaire.
C'est très mauvais pour la santé cardiovasculaire. Alors, des recettes qu'on peut retrouver alors dans votre journal d'aujourd'hui qui est dans les kiosques et les bacs. Alors, autre chose, vous parlez de l'huile ou des huiles végétales locales qui sont aussi très bonnes pour la santé.
Oui, la thématique des huiles, la consommation des huiles, on revient sur ça parce que rien pratiquement n'a changé sur le marché togolais. Il y a plusieurs gammes d'huiles nous les Togolais nous appelons azimi parce que c'est l'ancêtre des huiles que nous consommons. Azimi n'est plus, ce ne sont pas toutes les huiles qui sont sur le marché qu'on appelle azimi. D'ailleurs, quand on dit azim, ça veut dire que c'est l'arachide, l'huile qui est extraite de l'arachide. Est-ce que c'est ce que nous achetons au marché? Non. Pas forcément, parce que azimi, on peut trouver ça au marché, mais les autres huiles, elles sont faites à base de quoi? C'est ça la question. Et d'où la problématique de la consommation des huiles. Vous savez, une huile a des composés, et c'est ça qui fait sa qualité, et c'est ça qui fait aussi sa mauvaise qualité. Du moment où, d'après plusieurs études, il est prouvé que beaucoup d'huiles qui sont sur le marché sont très grasses. Hein? Et quand c'est très gras, cela peut constituer des problèmes pour la santé cardiovasculaire. On communique sur la consommation des huiles locales. Hein? Les huiles locales comme azimi dont on vient de parler, l'huile de soja bien traitée, bien sûr.
Voilà.
D'autres huiles végétales que nous avons chez nous. En tout cas, on a proposé là-bas 5 à 6, je crois, huiles végétales. On a ajouté l'huile d'olive universellement reconnue et pour la consommation. Maintenant, au niveau des huiles, il y a un certain nombre d'huiles qu'on prend pour frire, pour la friture.
Tout à fait.
Et il y en a qui sont faites pour l'assaisonnement. Donc, attention, on n'achète pas n'importe quelle huile pour frire. Quand il y a certaines huiles à un certain nombre de degrés sur le feu, ça commence par brûler et ces composés deviennent toxiques pour l'aliment qu'on est en train de frire. Donc, au final, nous allons consommer un aliment frit toxique pour la santé, surtout pour la santé du cœur et du foie. Donc, retournons en tout cas prioritairement à nos huiles locales. Un article important pour nous tous.
Alors, c'est vrai que l'autre défi pour le consommateur, c'est comment reconnaître les bonnes huiles alors sur le marché. N'est-ce pas, Gaziel?
Oui, c'est vrai. Les bonnes huiles sur le marché, la problématique aujourd'hui, c'est d'abord, c'est l'emballage. Qu'est-ce que les huiles que nous achetons sur le marché, qu'est-ce que les emballages disent. Mmh. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est plus attiré par le beau, par la couleur de l'huile. Mais cette huile, elle vient de quel aliment? Mmh. C'est extrait de quoi? On sait qu'il y a par exemple Nyoto qui fait de l'huile, oui, à base de la graine de coton, mmh, tout ça. Mais les autres huiles, c'est quoi? C'est l'arachide? C'est du soja? C'est du maïs? C'est du mil? C'est quoi? C'est extrait de quoi? Donc aujourd'hui, c'est assez important quand même qu'au niveau du ministère de commerce et ministère de la santé et tout ça par la douane, que des projets comme ça soient élaborés pour que on fasse rentrer dans nos pays, en tout cas, plus d'huile de bonne qualité que de mauvaise, parce qu'actuellement sur le marché, attention, on n'a aucune garantie sur ce qui est bon, ce qui est mauvais. En tout cas, ceux qui connaissent un certain nombre d'huiles de qualité peuvent le dire, mais je ne voudrais pas citer ici des gammes.
Mais justement, parlant d'emballage, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'emballages aujourd'hui, alors sur le marché, hein, parlant de ces huiles. Et aussi, toujours est-il qu'avec la question lors de commercialisation, il y a beaucoup de choses qui sont inscrites alors sur ces emballages. Et souvent même, ce sont des choses également qui attirent tant que vous rentrez alors dans le marché. Il est très important quand même, tel que je l'ai dit, avec ce défi-là pour le consommateur, de savoir le bon du faux.
Oui, donc le problème est toujours là, c'est que dans la population, on n'arrive pas à reconnaître le vrai du faux. Nous, c'est l'huile qu'on va acheter. Quand les femmes, ou bien même les hommes vont au marché, nous, c'est de l'huile. On appelle ça azimi, on achète, on va à la maison, on frit, on fait ce qu'on veut avec, et puis ben voilà, quoi, c'est ça. Or, l'huile, comme on vient de le dire, c'est composé d'éléments et c'est ça qui fait sa qualité ou bien sa mauvaise qualité. C'est en tout cas une problématique qui intéresse et l'autorité en amont et puis la population aussi après.
Alors, je pense qu'il y a une autre information à la une alors de votre journal ce matin qui doit intéresser les hommes, et vous proposez une recette également pour renforcer l'érection, j'allais dire. Alors, l'oignon rouge, c'est ce que vous proposez?
Oui, parce que vous savez, l'érection, c'est vrai que quand on fait ce genre d'article, on sait que dans nos communautés, les gens n'aiment pas parler vraiment du sexe.
Tout à fait.
Mais nous sommes un journal éducatif, nous apportons l'éducation aux populations. Et aujourd'hui, il est bien prouvé que beaucoup d'hommes se plaignent de libido, d'érection. Les femmes se plaignent du fait que les maris ne sont plus performants au lit et tout. Donc, il y a plusieurs causes. On a fait plusieurs articles sur les causes de ce genre de phénomène. Là, nous apportons, comment le faire, on aime à le faire, une solution, l'oignon rouge. L'oignon rouge se trouve au niveau du marché, en tout cas au Togo. Et d'après des études qui sont faites sur cet oignon-là, il est prouvé que c'est un aliment, c'est un légume qui permet de faciliter la bonne circulation du sang. Donc là, c'est déjà une bonne information. Et puis, c'est un légume qui permet une bonne dilatation. Ça joue un rôle vasodilateur au niveau des vaisseaux sanguins. Donc, c'est encore une deuxième bonne information. Or, ces deux informations rentrent dans la bonne érection. Hein. C'est pourquoi les études attestent que l'oignon rouge a des vertus aphrodisiaques pour les hommes. Donc, il y a une recette dans cet article à base de l'oignon rouge pour ces hommes mariés, s'il vous plaît, qui ont des difficultés d'érection. Ils peuvent essayer cette recette-là.
Ils peuvent essayer cette recette. Voilà. Alors, avis alors aux hommes mariés pour renforcer alors l'érection.
Pour le bonheur du couple.
Justement, c'est pour le bonheur du couple. C'est très important. Alors, Gadiel, nous allons dire juste alors à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver le journal, votre journal Santé Éducation dans les kiosques aujourd'hui. Et surtout, les sujets que vous venez alors de décrypter, ils peuvent trouver ces sujets également dans ce journal. rénale, des sujets tels que tomates, éviter AVC, infarctus, et oignon rouge, renforcer l'érection, huile végétale locale pour la santé, acides gras oméga 3, et réduire les risques alors d'AVC. Tout cela, c'est à retrouver dans le journal Santé Éducation d'aujourd'hui. Gadia, je sais que cet autre sujet dont nous allons parler tout de suite va vous intéresser aussi. C'est le Moyen Libéré qui en parle à la une alors de son journal ce matin. Le Moyen Libéré qui titre à sa une ou déjà à la machette, les autorités sécuritaires insistent, la chicha est interdite au Togo. Abbas, c'est vrai que nous avons suivi ce communiqué où les autorités sécuritaires du pays, bien évidemment, ont rappelé aux uns aux autres que les substances psychoactives sont interdites, et notamment la chicha, parce que on est en train alors de constater ces derniers temps que c'est devenu récurrent quand on voit des jeunes qui fument alors la chicha.
Oui, c'est tout comme c'est devenu une mode maintenant. Même dans les établissements, si vous ne vous abonnez pas au bar de chicha, c'est que vous n'êtes pas à la mode. C'est quelque chose qui est importé. Je pense que c'est il y a de cela de 5 ans comme ça, personne ne connaissait ce qu'on appelle la chicha. Mais aujourd'hui, quand vous passez un peu partout dans les bars, même les bars sont exposés, ils ont mis sur leur devanture chicha. Ce qui veut dire qu'ils invitent les gens. Et les jeunes sont déjà, ils s'en vont, ils s'abonnent. Et à chaque fois, surtout que nous sommes en période de vacances, ça devient un peu récurrent, beaucoup plus récurrent même, où les jeunes pour un oui ou un non s'en vont dans ces bars-là pour prendre la chicha, ils prennent la drogue, ils prennent de l'alcool, tout ça là c'est mélangé. Or, depuis le mois de février que le ministre de la Sécurité avait dit que ces stupéfiants sont interdits. Aujourd'hui, on voit qu'avec le rappel du ministre de la Sécurité, les autorités veulent aller tout droit au but. Donc, il faudrait aller également faire de telle sorte qu'on ne s'arrête pas à ces gens de communiquer, qu'on puisse aller plus loin pour aller à des contrôles et à des interpellations. Lorsqu'on voit les gens s'attouper au niveau de ces chichas, qu'on puisse les interpeller. D'abord, l'action avait déjà commencé après les Evala, où la police était descendue sur le terrain pour interdire et interpeller certaines personnes pour qu'ils arrêtent de prendre la chicha, parce que ce n'est pas bon pour la santé. La chicha, quand vous la prenez, quelqu'un dit qu'un coup de chicha, quand vous allez le prendre, ça dépasse 2 paquets de cigarettes que vous avez fumées. Et les gens sont en train de se tuer à petit feu avec la chicha. Puisque quand vous prenez la chicha, immédiatement l'alcool vient s'ajouter. Et ça devient un peu compliqué pour la santé. Donc je pense que les autorités sécuritaires doivent intensifier la lutte contre ce phénomène qui a envahi aujourd'hui la jeunesse togolaise. Sinon, on va à la dérive.
On va à la dérive. Gadiel, c'est vrai que moi je disais que c'est devenu un phénomène récurrent. Et Abbas le disait, c'est plutôt une mode aujourd'hui. Et sur même d'ailleurs certains kiosques, vous trouverez qu'il y a la chicha. Qu'est-ce qui peut amener, quelle raison peut expliquer le fait que les jeunes préfèrent consommer la chicha aujourd'hui?
Bon, vous savez, comme le confrère vient de le dire, c'est la mode. C'est la mode. Vous savez, c'est une substance qui a connu une promotion même sur les médias au niveau international. Donc, dans les films, dans les feuilletons,
dans les clips,
il y a la chicha. Donc, du moment où cela arrive dans notre pays, c'est pour que les gens consomment cela. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. C'est la mode. C'est faire comme les autres. C'est l'aventure, c'est goûter, voir ce que ça donne. Et ceux qui fument ces substances, c'est parce que cela leur donne, peut-être que ça leur donne une évasion, ça leur donne une super puissance, je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est la mode, c'est le goût, c'est l'aventure, c'est d'essayer de voir ce que ça donne. Et comme le confrère vient de le dire, malheureusement, il faut que, c'est pourquoi nous, en tant que promoteurs de la santé, nous disons que quand vous voulez consommer un produit, cherchez des informations par rapport au produit. Vous savez, aujourd'hui, pour trouver des informations sur la chicha, on ne va pas aller creuser le sous-sol.
Non.
Voilà, l'information est là. Hein? Pour vous trouver l'information sur votre Android, il suffit seulement d'être connecté pour savoir ce que c'est que cette substance, est-ce que je dois la prendre, qui doit la prendre, comment on la prend, si je la prends, qu'est-ce que cela va me donner. Donc, avant qu'on ne s'y aventure. Donc, voilà, donc, si les autorités prennent des décisions, c'est très courageux. Je pense qu'il faut qu'on arrive à respecter cela. Mais, en tout cas, la consommation est déjà là au Togo. Hein,
donc, tout à fait.
Peut-être qu'elle ne sera pas, elle ne sera plus faite comme ça officiellement. Mais sera, maintenant, ça va devenir une consommation clandestine.
Alors, et c'est vrai, Abbas, on a constaté quand même que le code, le nouveau code pénal a donné même d'ailleurs des peines hein, pour ces gens-là qui vont consommer alors de la chicha ou des substances psychoactives. Et, je pense bien, c'est l'article 865 alors du nouveau code pénal et, qui a donné les peines et les sanctions et tout. Mais est-ce que, mais toujours est-il qu'on retrouve la récurrence alors du phénomène? Est-ce que ça veut dire que c'est parce que ces peines ne sont pas appliquées, ces sanctions ne sont pas appliquées?
Oui, c'est parce que la loi n'est pas appliquée. C'est en ce sens que le ministre a rappelé que la loi va être appliquée désormais. Et si la chose devient récurrente et que les gens ne continuent pas à faire ce qui est interdit, c'est qu'on ne va pas, on n'applique pas la loi, on laisse faire. Maintenant, quand c'est devenu un problème de société, il faudrait réagir. Parce que comme Kader l'a dit, quand vous la prenez aujourd'hui, comme dans les bars ou dans les restaurants où on a institué la chicha, parce qu'avec la descente même de la police, ça va disparaître. Mais ça va devenir maintenant un truc que les gens vont prendre clandestinement, peut-être dans leur chambre, comme ça se fait avec la drogue. Ou dans des ghettos, les gens vont rester là-bas pour prendre de la drogue dans les ghettos. Et la descente, la dernière fois, de la ministre du développement
à la base,
de quoi pour aller sensibiliser les gens des ghettos par rapport à cette drogue. Il faut aussi penser aussi à sensibiliser également les jeunes. Puisque la jeunesse, vous les voyez s'attrouper peut-être à 10 personnes comme ça assises, en train de fumer une pipe en cela passant, en tirant la chicha, il la fume. Et celui-ci finit d'aspirer la fumée, il passe à l'autre, il passe à tour de rôle avec une seule pipe.
Et là aussi, c'est bonjour quand même aux infections.
C'est bonjour aux infections. On ne sait pas ce que l'autre porte dans son ventre ou bien dans sa langue.
Tout à fait.
Et vous passez cette seule pipe-là. Et ils sont contents de le faire. Et ce qui est grave, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'on laisse faire. Et la chose s'amplifie. Ça va de mal en pire. Et on ne sait pas. Donc, si on ne prend pas le temps de stopper ça tout à l'heure, demain, ce serait encore pire. Ce serait pire et on ne pourra plus l'arrêter. Vous voyez comment la drogue aussi a pris de l'ampleur. Ou même en interdisant, les gens se retrouvaient quelque part là pour prendre de la drogue. C'est de la même chose. Puisque la drogue, on ne vendait pas ça comme ça dans les bars ou bien dans les restaurants ou bien dans les boîtes de nuit. Maintenant, quand vous allez dans les boîtes de nuit, la chicha, ça est là. La drogue et l'alcool, ça est là. Et si les gens se retrouvent, j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en vacances, en période de vacances, les gens vont se trouver du plaisir à aller prendre de la drogue, à aller prendre même de la chicha. Et quand vous prenez tout ça là, ils vont même dépasser, aller prendre même les véhicules de leurs parents pour sortir la nuit, faire la java avec la chicha. Et en fin de compte, c'est quoi? C'est les accidents qu'on va récolter. Donc, il faudrait qu'on puisse faire attention avec ce qui se passe actuellement pour qu'on mette fin à ce genre de choses. Il faut faire appliquer la loi.
Il faut faire appliquer la loi. Gaziel, si aujourd'hui le phénomène prend de l'ampleur, est-ce que ça ne veut pas dire qu'entre-temps, ce qu'on devait faire, les autorités sécuritaires ont manqué également quelque chose? Je veux bien parler de la sensibilisation.
Oui, bon, vous savez, la chicha, ce n'est pas un produit togolais. Ça vient d'ailleurs. Donc, c'est vrai que on pouvait faire la sensibilisation, mais du moment où, vous savez, ce genre de produit, je vais quelque part dans un pays où c'est consommé, j'amène ça pour ma consommation personnelle. Et si, comme le Abbas vient de le dire, s'il y a des lois qui sont prises dans le pays qui ne sont pas appliquées, ça veut dire que le terrain est vierge. Si quelqu'un sait que, ah, attention, au Togo, on punit très sévèrement pour ce genre de substance, personne ne peut écrire sur son bar, sur son restaurant, chicha. Donc, ça veut dire qu'on a déjà rendu le terrain fertile pour l'introduction de ce genre de, de produits. Maintenant, on n'a qu'à faire la communication tout autour. Mais vous savez, la consommation clandestine, c'est elle qui fait plus de dégâts.
Tout à fait.
Voilà, donc si on veut traquer ce produit au Togo, qu'on le traque réellement en commençant par l'entrée, par où ça rentre dans, dans le pays, il faut faire un gros travail à ce niveau et puis au sein de la population pour vraiment traquer ce produit-là. Donc, même si on interdit de mettre sur les bars, oui, mais la consommation clandestine, c'est elle qui va plus faire de dégâts qu'on ne peut jamais imaginer.
Abbas, c'est vrai que la consommation clandestine, c'est elle vraiment qui fait assez de dégâts qu'on ne peut même l'imaginer, tel que Gaziel l'a dit tout de suite. Et c'est vrai que quand on parle aujourd'hui alors de la consommation, ou du moins on envoie la, on parle alors des sanctions et autres, est-ce que au finish les jeunes ne seront pas poussés maintenant à aller consommer cela clandestinement?
C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ils vont se cacher pour prendre ça. Ils peuvent se retrouver dans une villa, dans leur chambre, et s'inviter pour prendre ça. Personne ne lèvera. Et il se cause du tort en le faisant.
Et donc, il faut passer par la sensibilisation.
Il faut passer par la sensibilisation. Surtout, même, on devait le faire avant même les vacances.
Tout à fait.
Où les élèves sont déjà dans les salles de classe. On passe par là pour les sensibiliser par rapport à la dangerosité de la chicha. Parce que tout le monde sait que les élèves, dans les établissements privés, ils prennent la chicha. Quand ils sortent la, en récréation, ils vont aller prendre ça. Quand ils sortent à midi, ils se retrouvent ensemble pour prendre ça. Et là même, ils le faisaient en cachette, parce que quand ils seront, ils vont être surpris par leur enseignant, c'est grave, bien leur censeur, c'est grave, mais ils se cachent. Et c'est ça qui va se passer aujourd'hui avec l'interdiction si on n'a pas, on n'est pas passé par la sensibilisation. Nous avons l'habitude ici de prendre des lois et qu'on ne qu'on ne fait pas suivre.
Des bonnes lois et des belles lois aussi.
On ne suit pas. Regardez, on a dit entre-temps que fumer en public, la cigarette en public, est interdite. Mais tu vois, tu vas voir des gens en public assis comme ça. Même dans les bars, on dit que c'est fumer interdit pour ne pas gêner l'autre. Mais tu vas voir dans les bars, les gens sont en train de fumer. Ils allument la cigarette. Lorsque quelqu'un qui que ça gêne lui dit ça ne va pas être, il va l'insulter. Donc si c'est que cette les lois aussi étaient respectées, fumer en public qu'on avait prise entre temps a été suivi, on n'allait pas assister aujourd'hui à ce qu'on appelle avec la chicha, où les jeunes se sont adonnés à ça, puisque la chicha il ne prend pas de façon responsable. Les gens fument comme il faut. Or vous voyez, quand c'est les paquets de cigarettes, on a institué de nouveaux paquets de cigarettes où on a donné certaines conditions pour fumer, et d'ailleurs même écrit et de fumer de façon responsable. Ceux-là, les fumeurs qui ne peuvent pas arrêter de fumer. Mais ici, la chicha, où est-ce qu'on a écrit ça? Il y a pas, tout le monde prend la dose qui le dépasse et il y aura des overdoses ou autres aussi. Sans sensibilisation, on ne pourra pas nous mettre fin à cette situation, parce que il y aura des prises de chicha dans les lieux clandestins. Ils vont se fabriquer ça dans les lieux clandestins, même ils peuvent se retirer dans des coins les plus reculés, dans la brousse comme ça, se cacher, prendre ça. Comme les gens prennent même de l'herbe, comme on le fait, les gens se cachent, ils prennent. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de partir à la dérive. Elle croit que c'est la montre. Elle ne sait pas qu'elle est en train de s'autodétruire. Et si, dans ce cas, il n'y a pas sensibilisation, on continue dans ce genre de choses, dans ces situations, on risque d'avoir une jeunesse ratée.
On risque d'avoir une jeunesse ratée. Alors, Gazelle, finalement, c'est quoi? Abbas parlait entre-temps de la dangerosité alors de ce produit. Qu'est-ce qui pourra constituer, ou qu'est-ce qui est même d'ailleurs l'impact dangereux alors de ce produit sur la vie ou sur l'organisme alors de l'individu? Surtout que alors l'individu doit savoir ce qui en sort de grave pour être bien conscient et ne pas aller vers la consommation.
Vous savez, ce genre de produit agissent négativement sur le cerveau, sur le système respiratoire, sur le mental, voilà, donc sur la perception de la vie. Donc c'est des conséquences physiques, c'est des conséquences psychologiques. Qu'on ne peut pas maîtriser facilement. C'est ce pourquoi dans nos communautés, il est important d'éviter un certain nombre de produits, en tout cas l'entrée d'un certain nombre de produits, et puis de rapidement engager cette lutte et de beaucoup sensibiliser. Vous savez, le Togo est un pays où la communication, bon, en tout cas, ce n'est vraiment pas ça. On fait un peu, on abandonne, et puis salue les dégâts. Hein. Donc, si on veut vraiment protéger cette jeunesse contre ces stupéfiants, c'est absolument important qu'il y ait des projets, des programmes d'éducation, de sensibilisation à travers les médias, à travers les organisations. C'est ce qui va apporter, c'est ce qui va permettre de limiter un tant soit peu les dégâts. Dans le cas contraire, ça va dévorer la jeunesse et on sera là impuissant à assister à tous ces dégâts. Donc c'est encore une responsabilité au niveau de l'autorité, au niveau des parents, au niveau de toute la communauté. Ce qui est mauvais, liguons-nous ensemble pour lutter contre cela.
C'est très important, liguons-nous ensemble alors pour lutter contre cela, et surtout que c'est la jeunesse même d'ailleurs qui en partie avec la consommation alors de ces produits, et c'est important alors de s'armer tous ensemble alors pour lutter contre la consommation alors de ces produits. Nous allons quitter rapidement ce sujet pour parler d'un autre sujet, un sujet dont a parlé alors ou dont parle aujourd'hui le Mania Libéré. Alors, c'est par rapport surtout au processus électoral qui a commencé depuis un temps dans notre pays, après ce que nous avons tous ensemble assisté, je veux bien parler du recensement électoral avec la CENI. La CENI annonce le dédoublonnage alors des listes électorales, et c'est à partir de demain jeudi et aussi vendredi, c'est-à-dire 48 heures déjà pour ce processus. Et à la une alors de votre journal ce matin, le Mania Libéré, Abbas, vous titrez « Élections législatives et régionales, dédoublonnage des listes électorales, 48 heures pour faire recours devant les CELI ». Alors, d'aucuns nous poseront la question de savoir, mais est-ce que 48 heures pourront suffit pour y arriver?
Oui, l'essentiel, c'est d'aller consulter la liste et de voir si on est sur elle. Si on est inscrit, ou bien on a faussé votre nom, ou bien la date de naissance, tout ça là. Parce que lors du recensement électoral, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Il y a eu beaucoup d'erreurs de nom, de date également, qui ont été commises. Donc il faudrait aller voir si réellement le nom a été bien écrit, ou c'est votre date de naissance qui n'est pas conforme à votre acte de naissance, tout ça là. Vous allez réclamer. Si on reste, on dit que les 48 heures ne suffit pas, c'est qu'on n'a on a pas fait acte de citoyenneté. Il faut aller vérifier. C'est pour cela que dans le communiqué, le président de la CENI a appelé à la mobilisation de tous ceux-là qui ont été inscrits, d'aller vérifier et de faire des réclamations en temps nécessaire. C'est la loi qui donne 48 heures. Ce n'est pas la CENI qui a donné 48 heures, c'est la loi qui fixe les 48 heures de réclamation. Et à partir de ces réclamations, on pourrait avoir une bonne
un bon fichier électoral.
Et immédiatement, on a vu qu'il y a des gens, il y a les partis politiques même, qui ont dénoncé l'enrôlement des mineurs.
Tout à fait.
Il faut aller vérifier, et avec les preuves, on dit que ces mineurs-là, celui-là est mineur, l'autre est mineur, tout ça là. Et on soumet ça au président de la CELI, concerné de la localité, pour que l'information puisse être remontée. Il y a aussi, on a fait recensement. Après le recensement, peut-être qu'il y a eu des cas de décès. Donc, il faut aussi signaler ces cas de décès également au niveau des CELI pour que l'information remonte et qu'on puisse avoir un bon fichier électoral. On ne peut pas rester, les 48 heures vont passer, on va aller réclamer, après on va dire que non, on a fait erreur sur mon nom, on n'a pas fait ceci. Or, les 48 heures sont déjà passées. Demain, dans la matinée, dès les premières heures, lorsqu'on affiche, il faudrait que tout le monde aille sur les lieux, dans les centres de recensement, les CRV, pour voir si son nom y figure ou son nom a été mal écrit ou la date a été mal faite, tout ça là, avant de commencer par faire des réclamations. C'est 48, juste demain du 20, on a 48 heures à partir du 20.
Oui. Donc
21 pour faire les réclamations. Donc tout le monde n'a qu'à se mobiliser, tel que la mobilisation a été faite lors des recensements. Ceux qui ont été recensés n'ont qu'à aller dans les CRV pour vérifier effectivement l'effectivité de leur inscription.
Donc, Abbas, ce qui veut dire que rien ne sert alors d'avoir peut-être alors la carte d'électeur aujourd'hui et que votre nom est faussé alors sur le fichier électoral.
Oui, ça ne sert à rien parce que si le nom est faussé sur le fichier électoral, vous ne pouvez pas voter. Si c'est faussé, vous ne pouvez pas voter parce que la carte qu'on vous donne aussi est fausse. Il faudrait que tout soit en ordre avec ce que vous savez. Moi, j'ai assisté à des scènes lors du recensement électoral et où des gens sont sortis, ils ont montré la carte que ça, c'est pas sa date de naissance qu'on a mise là-bas, où on a faussé son nom. Et ils sont retournés le lendemain pour au moins pouvoir changer ou bien corriger ce qui a été fait comme erreur. Ils n'ont pas pu accéder à la salle parce qu'il y avait une longue queue. On s'occupe de faire le recensement. Donc, c'est par rapport à ça qu'il faut, quand on affiche la liste, là, il faut aller faire des réclamations. On les soumet au président des CELI. Ils sont chargés de revoir tout ça là avant qu'on expédie ça, qu'on renvoie l'information au niveau de la CENI pour des corrections. Donc, si on s'assoit pour dire que non, moi j'ai déjà ma carte électeur, je ne vais plus chercher, même pas à corriger. C'est que vous n'avez pas la carte. Vous avez une carte qui comporte des erreurs. Vous n'avez pas de carte d'électeur. Vous ne pouvez pas voter. Donc, le mieux, c'est d'aller directement demain, dès qu'on affiche, dès les premières heures, on se rend dans les bureaux, dans les centres de vote, dans les centres de recensement, pour voir l'effectivité de mon inscription, pour voir si tout est correct par rapport à ce qui est écrit sur la liste.
Et il doit y avoir une mobilisation totale autour de cette question, alors pour que du moins les uns et les autres, puisque c'est un travail citoyen, il faut y aller vérifier surtout les indications qui sont sur la carte pour s'assurer alors que ce que vous avez sur la carte correspond ou est conforme alors à ce qui est écrit également sur le fichier électoral. C'est très important. Alors, et c'est pour cela même d'ailleurs que le jour du vote, souvent on voit alors des gens qui vérifient la carte et vérifient également le fichier électoral pour voir si les informations...
Oui, effectivement, mais malgré les vérifications qui sont faites pour voir la conformité des noms et ce qui est donné comme information, il y a toujours des erreurs. C'est-à-dire les opérateurs de saisie font souvent des erreurs. C'est pour cela même, je ne vois pas pourquoi, quand ils ont en même temps la carte en main, la carte d'identité en main, il pose encore des questions à la personne. C'est par rapport à ces questions, quand il pose des questions, qu'ils font des erreurs. Au lieu de prendre la carte d'identité, suivre ce qui est écrit là-bas pour saisir, on ne le fait pas. On met la carte de côté, on pose encore des questions sur l'identité de la personne. Alors que toute l'identité est sur la carte de la personne qu'on pouvait vérifier, saisir. Souvent, c'est ça qui a fait retarder même le recensement. Quand vous avez la carte, vous ne tapez pas ce qu'il y a tout à la carte, vous mettez la carte à côté, vous posez encore des questions à la personne.
Oui.
Alors que des gens attendent, ça ne va pas faire marcher beaucoup de choses. Donc, c'est que les opérateurs de saisie aussi ont commis souvent beaucoup d'erreurs en ce moment. Ils ne savent pas comment on leur a, qu'est-ce qu'on leur a dit. Et ça s'est passé ainsi. Si on pouvait, on prenait seulement, on dit, prenez la carte, vérifiez ce qui est sur la carte, tapez seulement, saisissez toute l'identité qui est sur la carte et vous la mettez des lecteurs, on n'aurait pas de problème. Aujourd'hui, on va afficher, demain plutôt, on va afficher. Vous allez voir que beaucoup de réclamations vont arriver. Et la manière dont les gens sont mobilisés pour le recensement va faire qu'il y aura beaucoup de réclamations parce que il y a eu trop d'erreurs sur le fichier et sur la carte d'électeur.
Alors, Abbas, nous sommes en train d'assister en quelque sorte là à l'étape d'apurement alors de ce fichier électoral tel qu'annoncé par la CENI. Finalement, on comprend tout simplement que le processus électoral continue. Le processus alors de ces élections régionales et aussi législatives qui nous attend continue. Et ce train, comme le dira l'autre, ce train est déjà sur les rails.
Oui, le train sur le rail, puisqu'on a fini le processus d'apurement des listes.
Tout à fait.
Et maintenant, on est dans le processus d'affichage et de réclamation. Donc, après le processus d'affichage et de réclamation, il y aura des corrections qui vont être apportées. Et après ça, c'est tellement qu'on s'engage vers pour aller connaître les dates des élections à venir. Mais les gens se disent, est-ce que on n'est pas, nous sommes en juillet et qu'en principe les législatives devaient avoir lieu en novembre prochain puisque c'est un mois avant la fin du mandat des députés.
Tout à fait.
Donc ça aussi, et il fallait aussi voir par rapport au régional, on a dit que les régionales devaient avoir lieu avant avant les législatives. Donc tout ceci là, on va voir comment le gouvernement et la CENI vont se prendre pour qu'on ne puisse pas être en retard.
Mais Abbas, là, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication ou un problème d'information à donner surtout à la population sur ce plan, surtout que jusqu'à présent, nous ne savons pas quand est-ce que nous irons aux élections, c'est-à-dire la date n'est pas encore fixée, et aussi si les deux élections seront doublées ou couplées, j'allais dire, on ne le sait pas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'information?
Oui, il y a un problème de communication. Parce que la population doit savoir ce qui se passe exactement au niveau de la CENI. Si la CENI ne communique pas beaucoup, ça ne peut pas passer. On a l'impression que cette année, la CENI a minimisé la communication. Ça ne passe pas beaucoup trop comme ça. Vous avez vu que depuis quelque temps, c'est quelque chose incommuniqué. On balance sur les réseaux sociaux et sans explication. Aucun membre de la CENI ne passe, même sur les ondes. Pour expliquer le processus. Donc, il y a un problème de communication qui se pose au niveau de la CENI. Il faudrait changer ça. Et c'est ça qui a provoqué le fait qu'il y ait beaucoup qui sont laissés sur le carreau. C'est le problème de communication. On n'a pas tout de suite engagé même les médias pour accompagner la CENI dans le processus de la communication. Jusqu'à ce jour, il y a ce problème-là qui se pose. Donc, si la CENI peut, parce que le processus est déjà engagé, comme tu l'as dit tout à l'heure, le train est parti, on ne peut plus l'arrêter. Donc il faudrait que le train qui puisse arriver à bon port puisse avoir beaucoup de moyens pour donner des communications à la population pour que les gens ne ratent pas. Puisque c'est un moment, une période sensible. Les élections dans nos pays, c'est des périodes très très sensibles. Il faut faire attention à tout ce qu'on va dire. Il faut faire attention à ce qu'on veut faire, à ce qu'on ne veut pas faire. Donc, que la CENI puisse mettre beaucoup le point sur la communication. La communication, c'est la seule façon de mener à bien le processus électoral.
Comme le dira l'autre, la communication décide de tout. Et c'est vrai que, vous l'avez dit, le train est déjà parti et c'est sur les rails et le processus est engagé. Mais donc on pense que alors ce train n'ira pas à destination si Agbeyome Kodjo n'est pas rentré au pays. Je veux bien parler alors des membres de la DMK qui a organisé une conférence de presse le week-end dernier pour affirmer, confirmer encore, insister là-dessus que leur leader Agbeyome Kodjo doit être au pays avant que toute élection ne se déroulera alors au Togo.
Ah, ça c'est leur opinion. Ils sont dans leur rôle. Monsieur, la DMK, comme on le dit, c'est son rôle. Il y a un processus qui est engagé. On ne voit pas quel parti politique va mettre un frein à ce processus-là. Par quel moyen? Parce que les gens réclament le retour de leur leader et qu'on va bloquer le processus électoral. Vous avez vu ce qui s'est passé en 98? En 2018 plutôt.
2018.
Si ceux-là qui ne veulent pas participer, ils n'ont qu'à laisser le temps à ceux-là qui veulent aller aux élections. En 2018, ça s'est passé. On dit que nous allons boycotter les élections parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et les gens sont en train de regretter aujourd'hui. Ce n'est pas le retour d'un leader politique ou bien d'un chef de parti qui va faire freiner les choses. C'est quel moyen ce regroupement de partis politiques a pour empêcher le processus électoral d'évoluer parce que leur chef n'est pas là.
Justement, parce que sur ce point, est-ce qu'il n'y a pas une question alors de mauvaise foi si tant est qu'on sait que peu importe ce qu'on est en train de réclamer, ce qu'on est en train de dire, alors que le processus électoral va toujours continuer, mais au même moment, on insiste et qu'on le dit quand même à la population.
Non, ce n'est pas ça. L'élection, c'est un truc, c'est un calendrier qu'on suit. C'est une logique qu'on suit. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. La DMK est dans sa logique de réclamer le retour de son...
Tout à fait.
Chose. Pourquoi on ne réclame pas le retour de Monseigneur Poudjoulou? Puisque c'est lui, c'est son nom que ça porte.
C'est DMK. Oui, mais c'est, il réclame le retour également de Monseigneur.
Donc, le problème, c'est que Agbeyome Kodjo, on peut lui demander de lui-même de revenir. Mais est-ce qu'il a, il y a les garanties pour qu'il revienne en toute sécurité dans le pays? Est-ce que les garanties? Puisqu'on dit, je ne sais pas, il est poursuivi sur le plan international. Mandat, il y a un mandat qui est lancé contre lui.
Tout à fait.
Donc, il va revenir, il réclame son retour. Parce que j'ai l'impression que quand la DMK est là, il faut trouver des occasions pour aussi se faire entendre. Ça aussi, c'est la politique. Il faut se faire entendre aussi. Nous sommes en période électorale. Il faut aussi se faire entendre qu'on est en train de faire quelque chose. Quand on a parlé de ces élections et qu'il y a leurs membres, leurs militants, le militant de la DMK qui ont dit nous allons aux élections, Monseigneur Poudjoulou a dit n'utilisez pas mon nom pour aller à des élections.
Tout à fait.
Et ils sont sortis pour qu'il y ait la DMP. La dynamique.
Pour la majorité.
Pour la majorité. Donc, et ils sont là, ils vont aller aux élections. C'est pour ça qu'il dit qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de sortir pour faire des déclarations. Mais il faut avoir les moyens de ces déclarations-là pour que les gens vous suivent. Vous n'avez pas les moyens de vos déclarations parce que vous voulez faire le populisme. On dit si tel ne va pas, on va arrêter le processus empêché. Ça ne peut pas être empêché. Vous n'avez aucun moyen. En 2018, les gens disent que même si à une minute des élections, personne n'ira voter dans. Mais les gens ont voté. Et tout le monde, les gens, ceux-là qui ont crié là, aujourd'hui sont en train de regretter. C'est eux qui sont en train de chercher à aller à ces élections aujourd'hui pour se rattraper. Donc, on ne peut pas, par rapport à un système, c'est le processus engagé, ça ne peut pas s'arrêter parce que quelqu'un a dit, ce n'est pas une question de mauvaise foi. Ce n'est pas une question de mauvaise foi, c'est une question de logique. Le processus est là. Si quelqu'un veut s'engager dedans, il s'engage. D'ailleurs, la DMK ne fait pas partie de ce CPC qui est en train de se dérouler. Et c'est au niveau du CPC que toutes les informations, tous Les problèmes sont résolus.
Oui, parce que quand je parlais alors de mauvaise foi, c'est que je parlais plutôt alors du fait que le processus est déjà là. Le processus est engagé et que peu importe tout ce qui sera dit, le processus va aller jusqu'à sa fin. Et peut-être ceux qui sont également des gens qui, les opposants, des gens qui disent alors que non, on doit arrêter le processus si tel n'est pas alors au retour. Mais au même moment qu'on sait que non, le processus va continuer, mais on dit à la population que non, le processus pourra être arrêté et que le leader doit venir au pays d'abord. Je parlais alors de mauvaise foi là, quand on vient dire autre chose quand même à la population. C'est vrai qu'ils sont dans leur rôle.
Oui, ils sont dans leur rôle, je l'ai dit tantôt. Chacun dans son rôle. Mm. Parce que la DMK, dans sa logique maintenant, ce n'est pas d'aller aux élections. Elle n'est même pas dans la logique d'aller aux élections. Mm. Monseigneur Poujou même l'avait dit, celui qui va utiliser son nom pour aller à ces élections, il va le maudire. Mm. Et les gens ont été obligés de sortir de ce cadre. Ils ont créé leurs choses. Donc aujourd'hui, pas question de mauvaise foi. Le processus s'est engagé, je l'ai dit. Donc ceux-là qui sont en train de dire que leur patron doit arriver d'abord, avant, il va arriver pour organiser les élections ou bien pour s'impliquer dans l'organisation des élections. Ce n'est pas à la veille maintenant. Nous sommes à quelques, je crois, 5 mois d'élections. 5 ou 4 mois des élections.
Tout à fait.
Et le processus est engagé depuis 2022. On va l'arrêter parce qu'on réclame le retour d'un chef de parti politique. Ça, je pense que ça ne pourra pas se faire parce que les autres sont déjà aussi. Aucun parti politique aujourd'hui, aucun. Les plus sûrs, les grands partis politiques n'ont jamais dit que le processus va être arrêté. Mmh. Et ils sont déjà dans le processus. Ils sont en train de se préparer. Les gens ne disent pas qu'on va arrêter. Parce qu'il ne faut pas flouer les populations. Il ne faut pas faire de telle sorte que les gens se découragent au moment où ils sont en train de se mobiliser pour aussi aller faire ces élections. Quand aujourd'hui les gens sont en train de parler de chercher à s'unir, à faire une union de l'opposition pour aussi aller aux élections, qui a dit qu'on n'ira pas aux élections s'il n'y aura pas cette unité de l'opposition? Donc il faudrait que les gens fassent attention. On sait comment les choses se passent dans ce pays. Les gens peuvent crier à la veille des élections, vous ne pouvez pas dire que vous réclamez le retour de votre leader, sinon il n'y aura pas des élections. Mmh. On a déjà connu ces genres de situations ici.
Alors aujourd'hui, il y a tout à fait cet appel alors encore à l'union ou à l'unité de l'opposition. Les uns et les autres quand même crient à ce qu'il y ait vraiment cette unité. Mais alors, est-ce que vous voyez encore cela est encore à l'ordre du jour? Je veux bien parler alors des partis politiques, surtout de l'opposition. C'est vrai, on voit certains leaders de partis politiques alors qu'ils s'unissent avec d'autres, sûrement que c'est à des fins électorales où on ne sait pas trop, mais les autres parlent alors plus alors de cette unité pour aller à l'élection ou du moins pour faire action commune. Est-ce que c'est à l'ordre du jour?
Ces unités-là, je ne pense pas que ça puisse encore. Ces unions de l'opposition, on en a connu et c'est dans ces unions de l'opposition qu'il y a eu des trahisons et les gens ne veulent même plus faire de l'expérience de ces unions de l'opposition. Et les gens, ils sont en train de se débattre, mais il y a certains partis qui disent qu'ils ne peuvent pas faire avec avec n'importe qui, faire l'union avec n'importe qui. On ne peut pas aussi entrer dans une union tant qu'on n'a pas la même vision politique. On n'a pas la même stratégie politique. Du moment où aujourd'hui on a des élections à 2 tours, peut-être que les gens vont voler de leurs propres ailes. Et au 2e tour, ils peuvent chercher à faire la coalition. Mais parler d'union de l'opposition maintenant, moi, je suis pessimiste. Il n'y aura pas de cette union-là. Les gens disent je vais faire ceci, je vais faire cela. Il n'y aura pas. Je ne pense pas que ça pourra aboutir à quelque chose. Les gens, ils n'ont qu'à lutter. Peut-être qu'un jour, ils vont s'entendre pour aller s'unir. Sinon, même quand vous prenez les interventions des uns des autres, la responsabilité est partagée. On dit que c'est l'opposition elle-même qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cet état. On dit que c'est le pouvoir qui a fait que nous sommes dans cet état. Donc on partage les responsabilités à tous les niveaux. Et au regard de ce qui se passe actuellement entre même les leaders de l'opposition, au regard des interventions des uns et des autres sur les médias et réseaux sociaux qui s'insultent, ces partis politiques, les responsables de ces partis politiques qui sont en train de s'insulter, trouver une union de l'opposition maintenant, ce serait un peu compliqué. Vous avez vu ce qui s'est passé entre la DMP et l'ANC. Quand l'ANC a rendu compte à ses militants de cette rencontre de la DMP avec l'ANC, et que la DMP dit que nous n'avons pas dit ça, que est-ce que dans ces brouhahas-là, ça peut donner quelque chose comme union? Dans tous les cas, la prière est que l'opposition arrive à s'entendre un jour pour que une fois de moins puisse poser des actes concrets dans l'intérêt du peuple. Parce qu'on a l'impression que tout ce qui se passe actuellement, les égaux sont toujours là. Si ce n'est pas moi, ça ne peut pas marcher. Ces histoires d'égaux-là, ça existe et ça continue d'exister actuellement. Personne ne veut se laisser marcher sur les pieds. Que c'est moi seul qui dois aller. Parce que dans ces unions-là, c'est dans ces unions-là qu'il y a des problèmes. Il y a certains qui disent que lorsqu'on fait des unions, c'est que les autres partis ne savent pas. Ça se décide quelque part et ils viennent à la réunion. On dit que voilà ce qu'on a décidé. Alors que sans leur consentement, on a pris des décisions dans leur dos qu'on leur impose. Et dans ces situations, je pense que c'est des problèmes qui vont se poser si une fois l'opposition n'arrive pas à s'asseoir et discuter de ses propres problèmes avant de parler d'union ou bien d'unité d'action ou d'union de l'opposition dans l'ensemble. On a connu des unions ici. On a connu des coalitions.
Des coalitions.
Beaucoup d'unions, beaucoup de coalitions, beaucoup de quoi. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Plutôt, ça a contribué à diviser l'opposition. Ça a contribué à mettre en lambeau l'opposition. Donc, il faut réfléchir. Depuis les années 90, on est allé d'union de coalition et d'union en union, de coalition en coalition. Mais jusqu'à ce jour, pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'il y a des problèmes de goût. Chacun veut dire que si ce n'est pas lui-là, rien ne va marcher. Et c'est ça le problème qui se pose actuellement. Et on nous parle encore d'union dans ces circonstances. S'il y a quelqu'un qui veut aller se faire des unions ou bien des coalitions, que la personne soit de bonne volonté et de bonne foi, et que l'autre devant qui il se présente soit aussi de bonne foi, et qu'il ait la bonne volonté et l'engagement de mettre en place cette coalition ou bien cette union qui pourrait faire face au pouvoir en place. Sinon, dans le cas contraire, on serait là à parler d'union. Mais dans les unions, il y aura des trahisons, il y aura des traites, il y aura des insultes. Demain, on va insulter celui que c'est toi qui est venu faire ceci et que c'est toi qui rapportes les choses au niveau du pouvoir. Donc, tout ça là, je pense que aujourd'hui, moi, je ne compte pas, je suis très pessimiste par rapport à l'union de l'opposition.
Vous êtes vraiment très pessimiste par rapport à l'union de l'opposition. Et également, pour cette union alors de l'opposition, il y a le messager qui est aussi très pessimiste. Il s'aligne sur votre position. Et à la une alors du journal, ce matin, on voit l'opposition togolaise, les égaux refont jour. Et donc, pour dire tout simplement qu'il y a toujours ces problèmes qui entravent ce que nous avons tous ensemble appelé l'union de l'opposition. Mais aujourd'hui, Abbas, est-ce que finalement, comme d'aucuns le proposent, il y a certains qui estiment qu'il faut même une refonte alors de cette opposition et cette classe de l'opposition, et même d'aucuns disent que, mais écoutez, pour ce qui concerne les leaders qui sont à la tête alors de l'opposition aujourd'hui, il faut même d'ailleurs un changement à la tête alors de ces partis alors d'opposition. Est-ce que c'est une question de personne ou bien plutôt une question de système?
Non, en fait, moi, je dis que ce n'est pas une question de personne parce qu'on peut changer. Si on change la tête et que la tête est toujours là et les jeunes qu'on a mis, c'est lui qui va pousser le jeune, c'est qu'il n'y a pas eu de changement.
Tout à fait.
Puisque derrière, il y a quelqu'un qui guide. Salut le parti. Nous sommes au Togo ici, tout le monde sait que c'est les présidents fondateurs qui sont là. Et lorsque vous allez leur demander de quitter, de changer, de mettre quelqu'un, de renouveler leur classe, ils vont aller s'asseoir, croiser les bras. Parce que derrière, il y a quelque chose. On peut changer. Mais lorsqu'il va s'agir d'aller aux élections, c'est le premier responsable même qui va se présenter. On n'a pas eu le temps de roder cette jeunesse-là dans le sens de reprendre le pouvoir, bien de faire de telle sorte que on a une relève demain. Une relève demain. C'est toujours les mêmes. Et je l'ai dit tout à l'heure que dans des bureaux politiques, c'est que c'est la tête qui discute, qui décide et vient vous imposer. Puisque ce n'est pas vous qui cotisez. Tout ce que vous demandez, on vient, on vous donne. Vous ne cotisez pas. Un parti politique, normalement, c'est des cotisations. Et là, tout le monde est responsable. Mais lorsque ce n'est pas le cas, si vous ne cotisez pas, comme dans certaines associations où on cotise par mois, mais vous ne cotisez pas, vous n'êtes pas responsable. C'est celui qui a créé son parti, qui finance son parti. C'est lui qui donne tout l'argent. C'est lui qui fait sortir tout l'argent par rapport à tout ce qui va se passer. Mais si on dit, je vais mettre quelqu'un là-bas, vous allez dire, bon, il faut chercher tel moyen, on va voir. Et ce sont ces moyens-là. Parce que diriger un parti politique, gérer un parti politique, ce n'est pas facile. Il faut avoir des moyens. Si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas. Il y aura des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. On vous place là-bas comme un pion, mais celui qui est vraiment le gérant, le président, il est derrière, vous dit, parce que vous l'avez écarté, s'il veut que vous échouez, vous allez échouer.
Tout à fait.
S'il veut vous accompagner vraiment, réellement, comme on le dit, il va vous accompagner. Dans le cas contraire, c'est toujours les égaux dont on parle. C'est moi ou rien. Peut-être que si je disparais de cette vie, on peut mettre quelqu'un. Dans le cas contraire, si lui est là, il a créé son parti. Et vous dites que non, il faut un changement des partis, des leaders de parti. Mais venez le changer. Si vous ne voulez pas aller créer votre parti, et vous le gérez. Donc, c'est une question de stratégie politique et non une question de personne. Ça dépend de comment vous gérez le parti. Ça dépend de comment vous allez vous faire pour vous imposer. Ça dépend de la responsabilité de tout un chacun au niveau de la gestion des partis. Ce n'est pas une question de personne. Moi, je ne parle pas, je vois pas question. Ceux qui créent les nouveaux partis, ils sont là. Ils sont aussi là en train de s'imposer et de faire de sorte qu'eux aussi puissent avoir des grands partis, des grands militants, un bon nombre de militants sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, mais on a refait ce qu'on appelle le code de la charte des partis.
Des partis politiques.
Ce qui veut dire que chaque parti politique peut avoir des militants de Lomé à Saint-Cassé pour que tout le parti soit représenté. Mais si vous dites qu'il faut changer la classe politique, alors que ceux-là qui étaient là s'étaient déjà implantés, ils ont des personnalités quelque part et vous voulez qu'ils quittent comme ça. Donc c'est un véritable problème au niveau de ça. Il faudrait qu'on le voit. Ce n'est pas une question de personne. Moi, à mon niveau, ce n'est pas une question de personne, mais c'est une question de responsabilité, une question de stratégie politique.
C'est une question alors de stratégie politique et non de personne. Merci beaucoup, Abbas. Merci surtout d'avoir assumé, parce que déjà pour cette émission, alors de ce mercredi, nous avons invité Sylvestre Béni, il y a Fabrice Pétézi et aussi Estelle Koudzonou qui nous ont fait part alors de leur indisponibilité, mais vous avez assumé. Nous, les auditeurs vous ont écouté dans ce débat et nous allons maintenant leur donner la parole. Mais bien avant de leur donner la parole, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse à l'heure de ce mercredi. Et je le disais avant qu'on ne parte à l'heure pour la pause que vous nous avez écouté. Maintenant, c'est le temps que nous vous écoutons aussi. 22 21 33 114. Allô.
Allô.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je vous invite.
Voilà, merci. Oui, le nom s'il vous plaît. Bonjour.
Mohamed, ami de Tad Gaou.
Voilà Mohamed.
Oui. L'Africain, il est un peu souffrant là.
Tout à fait.
Je voulais dire bonne guérison et prompte guérison.
Merci beaucoup. D'accord. Ah, d'accord, c'est bon. Merci beaucoup, Mohamed. 22-21-33-114. Allô? 22-21-33-114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, le nom, s'il vous plaît.
Le nom, c'est l'évangéliste Marcelin.
Voilà, l'évangéliste Martinet.
Ok, je remercie l'invité de sa clairvoyance de la chose politique de notre pays, le Togo.
Oui.
Quant à ce qui concerne notre opposition, vous voyez, l'égocentrisme, moi ou personne, tactile l'opposition. C'est ce qui participe aussi, on peut dire, en quelque sorte, bien, à la dureté du pouvoir de ce parti uni. Oui, donc les membres, les partisans de ce parti-là, ils doivent avoir l'esprit de clairvoyance. À outrance, je dis, pour bien clarifier les projets, pour bien différencier les vrais des faux. Puisque ils bluffent le peuple trop. Quant à ce qui concerne le parti au pouvoir, je demande personnellement et humblement au président de la République de bien gouverner ce pays. Ouais. Parce qu'il y a un jugement que tout le monde rendra au moment opportun. Le grand Dieu est là. Donc, faisons en sorte que la population juge aussi de l'intérêt de ce pays. Je remercie.
Merci beaucoup, l'évangéliste Matinet. 22-21-33-114, 91-36-63-75, c'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler et réagir sur les sujets. Allô?
Bonjour, mon directeur.
Bonjour, Papa Sibiti.
À tout le plateau, avec mon fils et mon directeur, Harry Miao, encore bonjour.
Harry Miao n'est pas là aujourd'hui, oui. C'est Abbas Issaka.
Abbas, c'est voilà. Abbas que...
Oui.
Acceptez que je parle moi aussi, mon patois. Et vous aussi, quand vous vous retrouvez, vous dites, bientôt Dédé, allô, j'ai menti.
Non, tu n'as pas menti.
Donnez-moi cette faveur, accordez-moi cette faveur.
Vous avez dit la faveur.
Mon directeur, sache, bon, Dieu va le protéger. Nous prions, ça va aller, il reviendra prendre le plateau et vous allez le seconder. Vous savez, vous êtes nos enfants. Mais Dieu vous a hissé dans des autorités. C'est compliqué quand quelqu'un est au sommet de descendre. Hein, ce n'est pas facile. Et quand vous créez, vous partez avec. Je ne suis pas en train de faire la polémique. Voyez le cas, le président Agbebo a créé ça. Il est parti avec. Hein. C'est difficile de retrouver quelqu'un pour le remplacer. Vous avez vu comment mon fils et mon patron là, qui est parti de Victoire FM, pour le remplacer, ça va être difficile. Dieu a créé la situation ainsi. Donc, ceux qui sont là, c'est le propre de l'homme. Quand quelqu'un a 5 francs, il ne veut plus avoir 1 franc. Il veut avoir au-dessus. Donc, que Dieu raffermisse le cœur des gens, qu'on puisse se comprendre, c'est tout, c'est la compréhension. Quand vous parlez des institutions, des choses, non, c'est l'homme. L'homme est plus fort. La condition que vous avez faite, c'est l'homme qui vient, il met des coups de pied. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre réaction dans l'émission Club de la Presse, 22-21-33-114, 91-36-63-75. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, à qui ai-je l'honneur?
Oui, c'est Ali.
C'est
Ali.
Ali, voilà. Oui. Ali, allez-y.
Je dis merci à tous ceux qui nous écoutent, à votre station et l'animateur principal.
Merci à vous aussi.
Le Togo appartient à nous tous qui sommes sur ce territoire que nous nous appelons Togolais. Il n'y en a pas qui sont au-dessus de la loi. Je vais dire quelque chose de pratique. Aujourd'hui, celui qui représente le Togo légalement, c'est Faure Gnassingbé. Donc, à lui de prendre la responsabilité de ne pas cautionner des irrégularités qui se font remarquer d'abord par ceux qui l'entourent et nous disent qu'ils sont de la grande maison, ils nous en demandent beaucoup de choses, et surtout ce qui est flagrant, la CENI vient de violer à la fois la constitution togolaise, le code électoral et celui qui doit représenter nous, les populations, le procureur, n'a pas réagi. Retenez ça. Donc ça montre qu'il ne connaît pas son rôle. Depuis là, on parle, il nous parle comme si on n'est pas togolais. Ensuite, c'est pourquoi je parle du fait qu'on doit éviter tout ça. Parce que, quel que soit le cas, quand on va vers la justice togolaise, ils se mettent à nous dire qu'on n'a pas droit, mais au supra, on les gagne. À la fois, ceux qui représentent le Togo comme les magistrats se montrent impuissants ou incompétents. C'est une honte totale et nationale. Ensuite, on utilise l'argent du contribuable togolais pour dédommager ceux qu'on a endommagés. Mais où on va où? On nous parle de budget par rapport au prolongement de l'enroulement des gens dans la zone 1. Mais pourquoi l'agent du Togolais là? C'est pour la paix au Togo et pour l'utilité togolaise qu'on doit l'utiliser. J'implique directement le président de la République pour pouvoir à la fois relever des fonctions, le président de CENI, le procureur et toutes les institutions qui doivent réagir contre cette violation flagrante qui n'ont pas réagi à l'état de médiatrice de la République, institution entre que vous appelez les. Il y a un ministère qui parle, qui met en relation les institutions et la CNDH. Pourquoi ils ne réagissent pas?
C'est le ministère des droits de l'homme.
Oui. Tout ça là sont impliqués et quand ils ne réagissent pas, c'est le président de la République qui doit user de son pouvoir de magistrat supérieur pour les démettre, pour se protéger. Sinon, légalement, il augmente ces actes de haute trahison que nous tolérons depuis.
Merci beaucoup, Ali. Merci pour votre intervention. 22 21 33 114. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour. S'il vous plaît, c'est
Dieu
qui?
Dieudonné.
Dieudonné.
Oui.
Dieudonné, allez-y.
La consommation de Chicha.
Faut-il
interdire la consommation ou faut-il interdire l'importation? Moi, je vois qu'il est mieux d'interdire l'importation de chicha sur le territoire. C'est parce que ça vient que les gens consomment.
Voilà, puisqu'il faut voir la chicha avant de la consommer.
C'est ça. Et le point, c'est que quand vous allez fouiller, vous allez voir qu'il y a même des autorités derrière ça. Des gens qui sont en lien avec les autorités pour importer ça. Mais c'est ce que moi, je regrette beaucoup. Concernant les élections, c'est là les individus qui ont repris. C'est ce qui se fait à chaque fois. On dit que la CENI dit que le train est déjà parti. Et on ne va pas revenir. C'est ce que la CENI faisait depuis. Eux ne savent que c'est la voie par laquelle ils arrivent à céder les élections. Donc, comme ils voient qu'il n'y a pas un rapport de force devant eux, ils continuent jusqu'à ce que la population trouve des moyens pour s'opposer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup du donné. 22 21 33 114. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va.
D'accord, le nom c'est
Monsieur Achiongo.
Monsieur Achiongo, vous nous appelez de quel quartier?
Je vais demander par rapport à la CENI.
D'accord, allez-y.
Je vais demander à Monsieur Achiongo, est-ce que c'est la loi qui dit que d'interdire à certains Togolais d'être inscrits sur la liste électorale? Comme il a dit que la loi a imposé de faire deux jours de réclamation. Pourquoi cette question?
Non, nous n'avons pas bien écouté la question, s'il vous plaît.
J'ai dit, hein,
oui.
Il a dit que pour la réclamation, on a seulement 48 heures. Est-ce que c'est la loi même qui a interdit à certains Togolais d'être sur la liste électorale? Vous avez compris? Il faut que le président de la CENI, ce monsieur-là, arrête de s'amuser avec la gagne des Togolais. Donc, mais bonne émission.
Assez bon, ok. Bonne suite à toi aussi. 22 21 33 114. Allô.
Allô, bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour, comment vous allez?
C'est Abdoul.
Abdoul.
Oui.
Allez-y.
Bon, à voir ce que les gens disent, c'est comment que ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas laisser le pouvoir. C'est difficile qu'ils quittent le pouvoir. Mais à quoi c'est bon maintenant d'organiser les élections? C'est comme ils s'amusent sur la conscience des gens. Ils savent que même si les opposants gagnent les élections, ils ne vont pas céder le pouvoir. Donc ils n'ont qu'à nous dire qu'il n'y a pas d'élection. C'est pourquoi moi, je vois tout ça là, c'est comme c'est de l'amusement, quoi. Ils n'ont qu'à déclarer ça clairement, que hey, vous là, on ne va pas vous donner le pouvoir. Nous, on va rester jusqu'à l'éternité. Comme ça, il n'y aura pas d'opposition. Les gens ne vont pas s'entretuer pour rien. Ils n'ont qu'à gérer.
Mais là, on parle souvent d'une conquête. C'est une conquête de pouvoir.
Mais celui qui est devant dit qu'il ne va jamais laisser. Qu'il arrive, il pleut ou neige, lui sera toujours au pouvoir. Donc, à quoi sert bon de gaspiller l'argent du pays? Donc, on prend ça pour construire les écoles, les dispensaires, pour faire des routes. La preuve en est que le maire est dans l'eau. Mais pourquoi il nous trompe? Il gaspille des milliards pour les élections. Mais c'est étonnant, quoi, et c'est malheureux. Il sait que ça ne va rien donner. Au Bénin, Yahi Boné a laissé le pouvoir. Talon est venu. Talon est en train de réaliser les choses. Et il va partir un jour, quelqu'un d'autre va venir. Mais ici, ils ont juré au nom de Dieu qu'ils ne vont pas laisser le pouvoir. On n'a qu'à dire ça aux opposants. Vous perdez vos temps. Allez vous asseoir. Nous, on va gérer le pays à votre place jusqu'à l'éternité, comme son papa l'a fait. Et tout le monde se tait, c'est fini. Comme le Maroc, comme l'Espagne. Et pourquoi on trompe les gens? Moi, ça me fait rire, quoi. Et j'ai pitié même des Togolais.
Ça se comprend. Vous avez vraiment pitié. Abdoul, merci beaucoup. 22 21 34 74 91 36 63 75. Allô? 22 21 314 22 21 314 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler et réagir sur l'un ou l'autre sujet débattu ici au Club de la Presse alors de ce mercredi. 22 21 314 22 21 314 91 36 63 75, c'est les deux numéros. Abbas, c'est vrai, il y a sur bon, alors je reçois celui-ci d'abord. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Voilà, le nom, c'est...
C'est monsieur Christophe.
Monsieur Christophe, allez-y.
Je vais revenir au niveau de le recensement.
Mm.
Moi, je vois que de gaspiller encore l'argent pour le recensement, c'est une étude. Moi, je dis plusieurs fois que le Togo, là, c'est une république. Vaut mieux de devenir un royaume. Et puis, c'est fini. Papa parle, l'enfant vient... Ça vaut pas. Pour que l'argent qu'on dépense pour le recensement électoral, pour l'élection, là, on nous partage ça. Voilà, on le met encore dans l'eau. Tous les quartiers, les nouveaux calais, les nouveaux volcans à dos de construire, toutes les maisons, à Batam et là-bas, l'argent n'arrive pas à dormir. Hein? On n'a qu'à changer le Togo, le République n'a qu'à devenir Rome. Et puis c'est fini. Parce qu'on en a assez. Il n'y a pas opposant. Parce que nous, les opposants aussi, ne participent à rien. Tant que nous, les citoyens, quels sont les opposants qui ont créé au moins une petite entreprise pour nous? Ils se cachent si le moment vient pour les élections. Ils sortent de leur trou pour faire les grimaces. On en a marre. Faut que Paul reste là-bas. Nous, on n'a qu'à trouver deux fois ou bien trois fois par jour. La vie n'a qu'à être diminuée pour nous. Le marché, on n'a qu'à trouver 100 francs là pour acheter quelque chose. Et puis c'est fini. C'est ça seulement que nous, les Togolais, on veut. L'élection ne va rien changer. Oui. On n'a qu'à oublier les trucs là.
Christophe?
Oui.
Merci, votre message est passé. 22-21-33-114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Le nom, s'il vous plaît?
C'est monsieur Patrice.
Patrice?
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
Agoué.
Agoué, allez-y, Patrice.
J'appelle de Agoué le Bassito.
Allez-y.
Je ne suis pas politicien, mais j'aimerais savoir seulement une seule question. Avant que Agbuyomé et Koduro ne sortent du pays, est-ce qu'on les poursuivait et ils ont fui? Personne ne les poursuivait. Donc, s'ils sont partis, c'est à eux de décider de revenir. Les gens, toujours, l'opposition togolaise, c'est toujours comme ça. Ils font ça tout juste après quand les élections vont passer. Ils vont commencer à crier qu'ils ont gagné les élections et on ne les a pas donné. Ils n'ont qu'à venir. Personne ne les interdit de venir. Qui ils veulent que la personne dise oui, viens. Moi, je ne comprends pas quoi. Au Togo, nous n'avons pas l'opposition. Les gens font seulement la bouche. Sinon, vraiment, si quelqu'un vient et qu'on lui fait du mal, là, les gens n'ont qu'à se... À ce moment, on comprend que vous, on l'a fait du mal et la population peut se soulever. Personne ne les a renvoyés. Maintenant, ils disent, on n'a qu'à les laisser venir. Qui les avait renvoyés au Togo? C'est eux-mêmes qui sont sortis comme ils veulent. Et ils n'ont qu'à revenir comme ils veulent. Voilà. Je vous remercie beaucoup.
Patrice, merci à toi aussi. Bonne suite. Je pense que c'est le dernier auditeur, Patrice. Ou bien nous avons ok, bien évidemment. Et donc c'est le dernier auditeur, Abbas. Nous avons écouté les auditeurs, nous avons écouté leurs réactions. Qu'est-ce que vous pensez alors de tout cela?
Non, je pense que quelqu'un qui parlait de. Est-ce que la loi interdit?
Oui.
Aux gens de se faire recenser.
Recenser. C'est vrai que la question même n'a pas été explicite.
Mais oui. C'est là ce que j'ai entendu, c'est comme ça. La loi n'interdit à personne de se faire recenser. Peut-être qu'il faut demander l'amélioration dans le recensement.
Tout à
la
fait.
Loi, surtout, la loi donne le droit et l'obligation à tout le monde de se faire recenser pour avoir sa carte d'électeur.
Voilà.
On n'interdit pas. Mais là où on donne 48 heures, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est l'article 55 du code électoral qui le dit, qui dit que tout citoyen qui estime qu'un électeur ou a été indûment inscrit, radié ou omis sur la liste électorale peut saisir la CELI dans les 48 heures suivant l'affichage des listes électorales, conformément aux dispositions de l'article 55 du code électoral. Donc, ce n'est pas nous qui disons.
C'est bien écrit.
C'est bien écrit.
Le code électoral.
Ce n'est pas le président de la CENI qui l'a dit.
Non.
La loi, c'est la loi. Elle est dure, c'est la loi. On ne peut pas la détourner et la contourner. Ce qu'il faut respecter. Lui qui parle, je pense que j'espère qu'il doit aller demain, s'il est inscrit vraiment, il doit aller chercher si il y a des gens qui ont été radiés, il y a des gens qui n'ont pas eu leur nom sur la liste, ou bien lui-même s'il n'a pas son nom sur la liste, dans la 48 heures, adresser une requête, réclamation au niveau du président de CELI de son ressort. Donc, la loi n'interdit à personne d'aller se faire recenser, mais la loi vous donne 48 heures pour les réclamations juste après l'affichage des listes.
Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, Gadiel. Puisque Gadiel est toujours avec nous. Gadiel, un mot pour finir cette émission et aussi un carton de fin d'émission, si possible.
Vous savez, avec les pluies, plusieurs, en tout cas, je pense, au moins deux qui ont parlé de Lomé sous la pluie. Donc, moi, j'aimerais juste demander à tout un chacun, ceux qui sont dans des zones sensibles, de prendre des dispositions pour en ce qui concerne par exemple l'eau qu'il doit boire et tout avec ses pluies, les maladies hydriques et tout. Donc c'est de faire attention beaucoup aux enfants aussi, et puis on lance un appel à l'autorité avoir cette condition d'inondation qui prend de l'ampleur dans la ville de Lomé à l'intérieur du pays. On sait qu'ils sont en train de réfléchir par rapport à ça. Que les actions poignantes arrivent. Maintenant, les infrastructures qui n'arrivent pas à contenir la pluie, on espère qu'on pourra les améliorer. C'est absolument important, sinon on risque de voir Lomé totalement sous la pluie dans les prochains mois, mais dans les prochaines années. Carton vert aux petits qui sont à la maison pendant les vacances.
Oui.
Après l'année scolaire, c'est le repos. Donc, on leur fait un clin d'œil de bien se reposer, de bien s'amuser, d'éviter les vices. Alors, les parents ayant les yeux sur nos enfants pendant ces vacances, c'est absolument important parce que la rentrée, c'est encore dans quelques semaines.
Justement, c'est dans quelques semaines. Abbas, carton de fin d'émission?
Moi, c'est un carton vert à l'Agence nationale de protection civile, à un PC et les sapeurs-pompiers qui sont aux aguets lorsqu'il y a une inondation, ils descendent pour au moins secourir les gens très vite dans des circonstances un peu difficiles. Je pense qu'il faut les encourager et qu'ils soient sur le point aux aguets en cas d'inondation, qu'ils continuent par faire leur travail.
Merci beaucoup Abbas pour avoir participé à cette émission. Merci Gadiel aussi d'être venu alors dans cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Je suis Pascal Lossou. Fousseni Saïbou, mon confrère Fousseni Saïbou, vous retrouve demain à partir de 11h. Moi, je vous retrouve plutôt le vendredi à 11h. Michel Tomega et également Jérôme Dakouta ont assuré la mise en onde et la mise en ligne de cette émission. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.